Bienvenue dans Eurecast, le podcast des énigmes. Il s'agit du deuxième épisode et un grand merci à tous et à toutes pour vos retours chaleureux sur l'épisode précédent. D'ailleurs, un des retours que l'on a eu, c'est qu'on ne s'est pas vraiment présenté la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va remédier à ça. On va également faire le tour des actualités et je crois bien que l'on va même devoir choisir un peu nos sujets parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé encore ce mois-ci. Nous jouerons bien sûr ensemble. Le thème de l'épisode du jour sera le Raid in Lyon, un jeu de piste épique et annuel à Lyon. À la fin de l'épisode, nous reviendrons sur l'énigme de fin de l'épisode précédent. On a hâte que Johan nous donne la solution. Et nous finirons l'épisode sur une nouvelle énigme inédite, donc restez bien jusqu'à la fin. Tout un programme, Eurecast épisode 2, c'est parti! Salut Johan, comment ça va?
Ça va très bien Thomas et toi?
Mais au top! Et toi alors, du coup, tu as eu quelques retours sur l'épisode précédent, tu veux nous partager?
Et oui, on a eu quelques retours hein, qui étaient franchement constructifs. Un retour qu'on a eu, on s'attendait peut-être pas trop, c'est que les gens ils sont pas mal pris au jeu sur la chasse au trésor et ils ont réfléchi par eux-mêmes à des degrés différents. Il y en a certains qui réfléchissaient en même temps que Thomas. Et puis, on a aussi des gens qui mettaient carrément pause pour partir sur Google Maps et essayer de résoudre les énigmes. Donc, bah franchement, tant mieux, ça nous fait très plaisir.
C'est vrai que, par exemple, j'ai eu un retour d'une joueuse qui a trouvé que pour la définition réunit l'amour et la séduction, je crois, pour le premier jour, eh ben, elle a trouvé que la rue de Vénus croisait une rue Casanova, qui marche plutôt vachement bien.
Bah, ça marche très bien, Casanova c'est un séducteur, Vénus c'est l'amour, voilà. Donc il y a des gens qui ont trouvé des choses encore mieux que les vraies solutions, finalement.
C'est top.
Ouais, ça c'est cool. Et nous, en tout cas, suite à ça, on va essayer dans les épisodes de mettre comme ça régulièrement des énigmes où faut réfléchir un petit peu, ou vous pourrez aussi réfléchir de votre côté. On sera un petit peu limité forcément parce que c'est à l'oral, hein, donc quand on pourra décrire, on le fera. On pourra se servir de temps en temps aussi des illustrations qu'on publie avec les podcasts, hein, sur Instagram. Il y a des photos qu'on peut rajouter et sur Facebook. Donc vous pourrez vous servir de ces images pour essayer de comprendre au fur et à mesure de l'épisode de quelles énigmes on parle.
Donc c'est un nouveau format un peu, hein, ce truc des énigmes audio qu'on va essayer un petit peu d'explorer. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté un petit peu échange, côté personnel, partager ce qu'on a vécu. Que j'ai eu aussi beaucoup de retours sur le côté que ils ont un peu vécu la chasse avec toi finalement, Yohan.
Bah écoute, moi ça me fait très plaisir qu'ils aient réfléchi en même temps. Et puis franchement, bah, j'espère qu'ils vont arriver à maintenir le rythme et à réfléchir aux énigmes au fur et à mesure des prochains épisodes. On peut peut-être parler des actualités maintenant. C'est vrai qu'il y avait le Hard Champ dont on a parlé la dernière fois qui a eu lieu hein, depuis. Thomas, tu as participé avec moi. Je pense que tu t'es plutôt pas mal débrouillé, non, sur le Hard Champ.
Ah bah on a transpiré, mais c'est quand même notre moins bonne performance de toute l'histoire de Hard Champ. D'habitude, on a toujours réussi à finir le jeu dans les 4 heures. C'est déjà énorme, hein, 4 heures de jeu. Là, cette fois-ci, on a dû s'arrêter après 4 heures parce que on était, je crois, une estimation à 45% ou 42% du jeu, ce qui laisse quand même moins de la moitié, c'est-à-dire qu'il laisse encore beaucoup de place. On a transpiré, mais je crois que de tout côté aussi. Hein.
Oui, on a transpiré aussi, et c'est vrai que c'était un peu ironique parce que, pareil, hein, nous, pour la première fois depuis, je trouve que c'est la cinquième fois hein, qu'on participe, on n'a pas réussi le soir même à conclure l'aventure, et ça, c'était super frustrant, faut le dire. Hein, c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous arrive hein, d'avoir des gros blocages, on reste des fois 30 minutes, voire une heure dessus. Là, on est carrément resté 1h30 sur le même problème, et ce qui fait qu'à la fin, on n'a pas du tout le temps de finir le jeu, donc c'est frustrant, mais j'ai envie de dire, oui, c'est le format hein, qui veut ça.
C'est un championnat, je crois qu'il y a une quarantaine de puzzles à résoudre dans le jeu. C'est une estimation grosse maille et il n'y a pas d'indice puisque c'est un championnat, donc il n'y a pas à favoriser quelqu'un parce qu'il arrivait plus tôt à une énigme. Si tu as fait 98% du jeu et que tu bloques, et ben tu bloques pour toujours, c'est comme ça, c'est le format qui veut ça et ça donne un petit côté épique hein.
C'est épique et moi mon avis c'est que ça reste quand même assez frustrant de pas y arriver. Je préférais qu'il y ait des indices pour permettre d'y arriver. Après je comprends le format. Enfin, jusque là j'avais échappé à ça, mais quand on le vit en fait c'est assez terrible parce que c'est vrai qu'on se réserve la soirée avec l'équipe pour tenter ça et nous enfin c'est vraiment au bout de 30% du jeu qu'on bloque sévèrement, donc on est un petit peu on est un petit peu embêté. Mais bon, voilà, on a tranquillement attendu les indices pour enfin finir le jeu. Et c'est vrai que toute la fin du jeu, pour le coup, était beaucoup plus fluide que le début. Moi, je l'ai beaucoup plus apprécié. Il y a eu des très bonnes trouvailles. Globalement, enfin, je suis quand même très satisfait de la qualité du jeu et des énigmes.
Moi, après, j'aime bien aussi ce moment de douleur, hein, de moment où tu dois te remettre en question pour trouver des nouvelles idées. Là, c'était un poil long, parce qu'on n'a pas trouvé d'idées. Je crois qu'on a mis 2h30 pour passer un puzzle. Mais c'est un bon souvenir quand même de mon côté. Comme toi, la deuxième moitié était très fluide et waouh, quel travail quand même, parce que je rappelle que c'est un jeu gratuit qui occupe du coup les meilleures équipes plus de 2 heures. C'est incroyable, hein, je trouve.
Ouais, ils font du très bon travail, hein. Mais bon, voilà, ouais, c'est ça, blocage. Et en fait, nous, pour dire quand même ce qui s'est passé, on est arrivé à un stade où on n'arrivait pas à résoudre l'énigme parce que on avait des acquis, hein, sur l'énigme. On avait passé une étape où pour nous c'était évident que c'était d'une certaine façon qu'il fallait faire, et on réfléchissait avec la suite. Et il y avait déjà pas mal de choses qu'on pouvait faire en fait, hein, avec les données qu'on avait après. On allait vraiment dans tous les sens en disant voilà, on va finir par trouver quelque chose. Ça marchait pas parce que en fait il fallait remettre en question quelque chose qu'on avait établi, et ça c'est très dur. Hein. Toi Thomas, le blocage, c'est vrai que vous avez bloqué pendant plus de 2 heures.
Oui, pour le coup, on a mis, je pense, une bonne demi-heure à trouver toutes les informations. C'est déjà assez long, hein, puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Un puzzle ne doit pas nous prendre une demi-heure d'habitude pour avoir le rythme. Mais après, on a eu l'impression d'avoir fait la bonne chose. Donc, on n'a certainement pas fait la bonne chose. Mais du coup, on n'est pas revenu dessus. On a cherché plus loin, on a cherché plus compliqué. Et malheureusement, au bout d'un moment, on a réessayé, je crois qu'on a réessayé plusieurs fois avant d'arriver à faire l'action. Et on a eu l'impression de l'avoir fait, donc il y a une certaine frustration de ne pas s'être posé dans l'équipe, de ne pas avoir fait les choses calmement quand on était sûr que c'était ça qu'il fallait faire, au lieu de faire assez vite et dire bah c'est pas ça et on passe à autre chose. Donc pas mal de frustration, mais et ouais, encore une fois, c'est un exercice hyper intéressant. J'invite les auditeurs à essayer de faire le jeu. Il est gratuit et on peut le refaire, on peut refaire toutes les archives. Et encore une fois, celui de cette année, je le trouve plus compliqué et plus long que ceux des années précédentes.
C'est vrai que l'avantage en plus de le faire maintenant, c'est que on peut circuler les indices comme on veut, on peut demander de l'aide par ailleurs. On peut aussi voir, je crois, des solutions qui sont publiées. C'est pas toujours le cas, mais à des moments, ils ont fait des vidéos, hein, où ils parcourent tout le jeu, ce qui permet de se débloquer sur certains endroits. Et ça, c'est pratique si on bloque. Donc voilà.
On note quand même encore une super performance d'une équipe française, les Weird.
Effectivement, les Weird qui ont fini deuxième du classement, et ça c'est incroyable quand on sait toutes les équipes qu'il y a autour du monde qui sont super fortes. Quand on voit les temps, en plus c'est hallucinant. Enfin, tu dis mais ça, enfin comment est-ce qu'ils ont pu faire aussi vite la quantité d'énigmes qu'il y a à faire? Bah tout simplement, ils enchaînent et il n'y a pas de temps mort.
Ils ont mis quoi, moins de 3 heures?
Ouais, je crois qu'ils ont mis moins de 3 heures effectivement.
Donc je pense qu'on a mis 2h40 pour la deuxième moitié du jeu où on n'a pas eu de blocage. Donc t'imagines, il faudrait réussir à faire la première moitié du jeu en 0 minute, alors qu'on a galéré comme pas possible.
C'est donc ça. Non, mais en fait, eux, simplement, quand c'est vrai que toi tu dis qu'il n'y a pas eu de blocage, mais ça prend un certain moment de résoudre les énigmes, et eux, enfin, ils ont des techniques. Je pense, hein, je les ai pas vu jouer, mais déjà de se répartir au maximum les énigmes, et puis de faire en sorte que tout aille hyper vite et qu'il y ait zéro temps mort.
Ouais, c'est j'aimerais bien être une petite souris et voir comment ça se passe. Ça doit être hyper intéressant, mais je pense que nous, on transpire et on a l'impression d'aller dans tous les sens. Donc eux, ça doit être une énergie assez folle. Et du coup, ils vont aller faire la finale du coup à Prague, c'est ça, cette année?
C'est ça, finale à Prague, en physique, avec les 10 meilleures équipes, pour s'affronter sur des escape games physiques. Hein. C'est vrai que pour faire un championnat d'escape game, on en parlait, hein, d'avoir un jeu physique à la fin, c'est quand même pas mal. Donc, on pourra voir ça en live d'ailleurs.
Et là, du coup, on pourra être une petite souris puisqu'on pourra voir tout ce qu'ils font en direct.
Exactement. Voilà, ça c'était pour le Hard Champ. Il y a une deuxième actualité dont moi je voulais parler. C'est la soirée énigme qui se passe à Paris. Alors, c'est un projet qui a été lancé récemment par l'entreprise Unsolved. Unsolved, c'est des gens qui créent des chasses au trésor, qui ont créé l'Élixir d'or, qui est une grosse chasse au trésor qui date d'il y a un an maintenant. Et voilà, ils se diversifient un peu sur les projets. Et là, il y a cette idée de rassembler un petit peu la communauté d'énigmes en vrai, alors ça se passe à Paris, hein, pas à Lyon, désolé Thomas, hein, c'est vrai que c'est arbitraire, mais peut-être que ça sera organisé dans d'autres villes par la suite. Et c'est vrai que dans tout ce qui est jeu d'énigmes en ligne, la plupart des gens ben, en fait, se retrouvent sur Discord. Hein, c'est un peu la plateforme. Alors, c'est vrai, y a les gens qui jouent au jeu d'énigmes en ligne dans leur coin et qui n'ont pas besoin d'échanger, mais c'est vrai que Discord, c'est quand même la plateforme qui est pratique pour échanger, à la fois dire ce qu'on a pensé d'énigmes, enfin, ça peut être juste plaisanter hein, au sujet des énigmes, des fois aussi s'aider, hein, s'entraider, se demander de l'aide entre personnes. Donc, la plupart des acteurs des jeux d'énigmes en ligne ont leur plateforme Discord. Hein, il y a Zuppel University, hein, Thomas, vous avez votre plateforme. Moi, j'ai celle aussi que j'utilise pour mes jeux. Et il y a comme ça plein de gens qui sont un peu inscrits sur tous les salons Discord, qu'on voit passer parce que à force de faire des jeux, on voit un petit peu les mêmes personnes régulièrement. Et forcément, on a envie de rencontrer ces personnes en vrai, puisque sur Discord, on voit juste le pseudo et la photo de profil. Là, c'était l'occasion de rassembler des gens à Paris. Et pour rassembler les gens, bah, l'idée, ça a été de créer une soirée avec des énigmes à faire quand même. On s'est retrouvés dans un bar et on était plusieurs créateurs. Donc moi, j'étais présent, il y avait trois autres créateurs qui ont proposé des énigmes. Les gens, ils étaient par équipe sur des tables. On leur donnait les énigmes au fur et à mesure, toutes les 30 minutes. Et à chaque fois, il fallait résoudre l'énigme le plus rapidement possible au sein de son équipe. Il y a des lots qui étaient offerts par Unsolved. Et il y avait une très bonne ambiance. Hein. Tout le monde a beaucoup aimé. Hein. Sur place, on a eu des très bons retours, même après coup. Donc vraiment, le principe est très sympa. Et c'est quelque chose qui va avoir lieu à nouveau. Hein. Eux, ils aimeraient bien faire ça tous les mois. La prochaine date, c'est prévu en septembre. Et ça sera possible de s'inscrire. Alors, il y a un serveur Discord aussi hein, pour la soirée. Le but, c'est de s'inscrire. En tout cas, il y aura un sondage pour savoir combien de personnes sont disponibles pour qu'ils puissent réserver un bar qui correspond à la taille des personnes. Donc nous, on mettra le lien du serveur Discord si vous voulez vous inscrire. C'est vrai que pour l'instant, c'est un projet qui n'a pas de nom. Hein, il n'y a pas de nom, de logo. C'est juste Soirée Énigme à Paris. Peut-être que ça va se développer avec le temps. On va voir. Et puis, ils recherchent aussi des gens pour créer des énigmes. Hein, donc si jamais voilà, vous avez envie aussi de créer des énigmes et de les proposer sur Paris, c'est l'occasion d'en proposer pour ces rassemblements.
C'est vrai que les retours sont très bons puisqu'on a eu des échos jusqu'à Lyon. On a vu quand même pas mal de gens nous en parler, sur Discord notamment. Il y a même un jeu qui s'est passé sur Discord qui était décalé parce qu'il y avait la soirée énigme. Et ça avait l'air d'être vraiment très très bien. Je suis vraiment très curieux de voir ce que vous avez fait. Ça a l'air d'être vraiment un chouette projet. Et c'est vrai que on en va en parler pendant l'épisode du Red Dead Lyon. C'est aussi un jeu qui est national et qui m'a permis personnellement de rencontrer des gens que je ne voyais que sur Discord pour les jeux d'énigmes. Et c'est hyper sympa. Même si je trouve que voir tout le monde en même temps, ça permet pas forcément de créer des liens très forts. Mettre un visage, un nom et pouvoir échanger 5 minutes, ça m'a fait super plaisir avec pas mal de monde que je côtoie finalement presque toutes les semaines sur Discord. Donc j'imagine que la soirée avec des inédits dans un bar, d'une manière vraiment très décontractée en plus. Ça devait être super sympa.
C'était très sympa, effectivement. Il y a des gens qui sont venus d'un petit peu loin, il me semble, hein, qui ont pris le train pour assister à la soirée. Je pense qu'on n'arrivera pas au stade du Radignon où les gens viennent vraiment pour toute la journée d'énigmes. Ça reste une soirée hein, seulement, mais bon. Mais bon, ça a motivé un petit peu quand même un peu les gens à venir. Et les énigmes, d'ailleurs, sont disponibles hein, sur le Discord, les énigmes de la première soirée. Donc, c'est possible de regarder ce qui a été fait quand même pour ceux qui n'ont pas pu participer.
Trop bien. Et vous avez réussi, du coup, à tenir un peu l'objectif de 30 minutes par énigme. C'est bien passé, ça?
Bah, à peu près. Ouais, mon énigme, c'était bon, c'était en 30 minutes, mais on a deux énigmes qui ont un petit peu dépassé. Dans les créateurs, il y avait The Escapers qui était présent, il y avait Sébastien, le gérant, qui avait fait une énigme. On avait Énigme de Labo avec Charlotte qui gère ça, qui était présente. Et il y avait aussi Unsolved, hein, il était présent. Il y a Adrien qui, lui, gérait la soirée, qui avait aussi fait une énigme. Donc, on avait ces quatre énigmes. Et il y en a qui étaient un petit peu plus durs. Ouais, il y a Énigme de Labo qui, bah, elle a beaucoup d'imagination. Elle fait des choses où, des fois, il faut aller vraiment chercher loin. Et on avait très peur que son énigme, parce qu'il y avait beaucoup de choses, hein, qu'elle dure très longtemps. On a passé à 40 minutes pour lui laisser le temps au joueur de le faire. Et je crois qu'on a même fait pareil pour l'énigme d'Adrien, où pareil, il y avait pas mal d'étapes. Donc, c'était approximatif. Et puis, il y a un certain qui n'arrivait pas à résoudre l'énigme dans le temps imparti. C'est pas grave, en fait, hein, il la mettait de côté. Ils passaient à l'énigme suivante et quand ils avaient du temps, ils reprenaient l'énigme pour avoir le temps de tout finir dans la soirée.
Excellent. Et après, je trouve que si tu sais déjà qu'elle est un peu longue, tu peux adapter et dire bah ça la mettra 40 minutes, c'est très bien. Et je trouve que Je préfère avoir une énigme un peu originale qu'une énigme sur laquelle tu vas rouler parce que tu l'as déjà vu ailleurs. C'est un peu gâché, quoi. Donc, trop
c'est
cool.
Vrai. Et pour le coup, c'était vraiment des énigmes originales. Hein, donc, moi, je trouvais la qualité était bien.
Bah, ça donne envie. Et peut-être, du coup, une retranscription de la soirée dans d'autres villes?
C'est ça. Bah oui, bah, ça a été évoqué hein, sur le serveur Discord. Donc, il y aura peut-être ça. Après, c'est vrai qu'il faut une masse critique hein, pour faire ce genre d'événement. Là, on a été une quarantaine dans le bar, ce qui est pas mal. Mais bon, s'il y a que 10 personnes, c'est peut-être un petit peu léger pour justifier le fait de créer des énigmes juste pour la soirée. Et oui, je l'ai pas dit, moi, c'est inspiré de Puzzle Pint pour ceux qui connaissent. Tu connais pas toi, Thomas, non?
Non, j'avais entendu parler avec ce projet-là, mais j'avais jamais entendu parler
T'avais
avant.
pas entendu parler avant, ok. Bah, pour expliquer rapidement, c'est un jeu international avec des énigmes qui sont proposées et qui, enfin, donc c'est en anglais, hein, et qui sont distribués un petit peu partout dans le monde à des lieux où ils organisent des soirées où les gens viennent pour résoudre sur place les énigmes. Donc c'est vraiment le format que nous on propose. C'est juste que eux ils font quelque chose. Alors, ils font des choses qui sont très bien chez Puzzle Pint, mais c'est en anglais. Et c'est vrai que pour les Français c'est un petit peu, je pense qu'il y a un peu la barrière de la langue qui fait que ce serait difficile d'organiser ça chez nous. Et voilà, l'idée d'Adrien c'était de faire quelque chose similaire, mais en français.
Trop bien. Ben, on a hâte de suivre ce que ce projet va devenir.
Exactement.
Je crois bien qu'on avait noté que une des actions d'aujourd'hui, c'était de se présenter. Puisque finalement, on a un peu loupé cette étape-là la fois d'avant.
On l'a un peu loupé, mais c'est jamais trop tard hein, pour le faire.
Ben non, et puis en plus, ça dilue un petit peu les informations d'épisode en épisode. Donc, Johan, est-ce que tu veux nous raconter ce que tu fais et comment est né un trésor à Paris?
Oui, effectivement. Je peux vous parler un petit peu d'un trésor à Paris. C'est mon projet principal que j'ai lancé déjà il y a quelques années. Bon, en 2014, il y a eu les Escape Games qui sont arrivés en France. Moi, assez rapidement, j'ai découvert ça et j'ai directement accroché. Dans la foulée, moi, des Escape Games, je découvre aussi les jeux de piste. Ça ressemble beaucoup parce que finalement, on est aussi avec son équipe à résoudre des énigmes. Le fait d'être en ville et de voir des environnements qu'on parcourt habituellement et dans lesquels on résout des énigmes, moi ça m'a plu pas mal aussi. Je trouvais qu'il y avait un côté plus réel, côté vraiment c'est l'aventure de tous les jours de résoudre ça, donc ça m'a bien plu et j'ai cherché à en jouer au maximum et je suis tombé à un moment sur une communauté de gens à Paris qui en organisait régulièrement, hein, c'était avec le site OVS et là j'ai commencé à faire vraiment beaucoup beaucoup de jeux de pistes. Ouais, parce qu'en fait ouais, ils en organisaient toutes les semaines quasiment, des fois c'était même plusieurs fois par semaine et moi enfin vraiment je faisais tout parce que ça me plaisait vraiment beaucoup et puis il y a un moment en fait, où il y a quelqu'un, enfin, c'est même plusieurs créateurs hein, qui disaient, ouais, Johan, est-ce que tu créerais pas toi aussi un jeu? En fait, j'étais pas trop motivé parce que, enfin, moi je profitais des créations des gens et je trouvais ça très bien. Mais je me suis dit, allez, pour leur rendre l'appareil, je peux tenter de faire quelque chose moi aussi. Et je me motive comme ça à créer un jeu. Alors, le début, c'est quand même très dur. Hein. C'est très dur de se lancer, t'es devant une page blanche, tu sais pas du tout quoi faire. Vraiment compliqué. Mais au fur et à mesure, quand tu commences à créer un cadre, développer certaines mécaniques, ça devient plus facile, ça devient au bout d'un moment, ça devient du remplissage en fait, hein, pour arriver à concevoir le jeu dans son ensemble. Donc ça a plutôt bien marché et j'ai réussi à finaliser comme ça mon premier jeu. Alors, ça a quand même pris un mois à temps plein, ce premier jeu. parce que je voulais faire ça bien et j'ai mis la barre, je pense, un petit peu haut. Je suis parti aussi sur des outils technologiques pour ce jeu. Il y avait un chatbot sur Messenger. Enfin, voilà, c'était un petit peu technique, mais j'étais vraiment très fier de ça. Ça a plu aux gens, donc, ça j'étais content aussi. Et dès que ce premier jeu était fini, moi le but c'était directement de recommencer et d'essayer d'améliorer hein, ce que j'avais fait. Parce qu'en fait, à l'époque, moi, je suis développeur de sites web, d'applications mobiles, et c'est vrai que le côté itération, hein, de dire voilà, je regarde ce qui va pas, je propose une meilleure version, c'est quelque chose qui est omniprésent. Hein, toi, Thomas, tu le sais bien aussi avec ton métier. Et ça, cette logique, elle s'applique vraiment aussi aux jeux de piste, hein, puisqu'il y a moyen vraiment de les améliorer en se rendant compte des choses qui vont pas, toutes les frictions, essayer d'améliorer le jeu. Donc je me suis pris à ce jeu, hein, d'essayer de faire à chaque fois mieux. Et en fait, bah, rapidement, en fait, j'ai quitté mon travail parce que, en fait, j'avais déjà posé un mois de congé pour faire le jeu. Et alors, officiellement, c'était juste, bon, en fait, c'était un projet avec des amis et on n'avait pas pris de vacances depuis longtemps, donc je pouvais dire, allez, bah, je fais un mois tranquille où je fais ce jeu. Mais rapidement après, je fais, bah, désolé, en vrai, ça me passionne trop, donc je vais devoir me lancer à plein temps dedans. Et c'est comme ça, en 2018, que Un Trésor à Paris est né. Hein, et depuis 6 ans maintenant, ça n'a fait que continuer, que grossir. Et il y a plein comme ça d'autres projets qui sont lancés via Un Trésor à Paris. Parce que c'est vrai qu'au début, on faisait les jeux de piste en physique, puis après, il y a eu aussi les jeux en ligne. Hein, il y a eu pas mal de choses qui sont faites, avec toujours quand même une ligne directrice qui est de résoudre des énigmes pour découvrir Paris. Hein, ça, c'est un petit peu le slogan d'Un Trésor à Paris. Mais le but quand même au fond, c'est quand même de créer des jeux que j'aurais aimé jouer. Hein. Alors ça, en fait, moi, ça me fait marrer de dire ça parce que c'est vraiment le cliché. On l'entend, moi, j'ai entendu 1000 fois ce truc, mais à chaque fois, je dis ah bah hey, c'est comme moi. Parce que, mais bon, bah ouais, non, mais il y a plein de créateurs, ils font ça en fait, hein. Ils créent des trucs qui veulent jouer, hein, tout simplement.
Bah oui, c'est une motivation. Hein.
C'est une grosse motivation. Et bon, et voilà, moi donc j'avais fait beaucoup de jeux, je savais que pour moi ce qui était important pour un jeu, c'est l'originalité, hein, pas retrouver les mêmes mécaniques, parce que en fait voilà, quand on connaît une mécanique, on la réplique sans trop réfléchir, c'est pas forcément intéressant. Non. Et surtout aussi de rester vraiment dans une expérience ludique, hein, ça c'est quelque chose qui je trouve c'est un travers qu'on prend très très vite dans les créations de jeux, de faire des choses qui peuvent être des fois difficiles ou longues, mais c'est juste parce qu'il y a plein de fois une même action à faire, genre compter des bancs dans un parc, ça c'est long, c'est pas très intéressant, et aussi faire des choses trop dures non plus, c'est pas fun pour les joueurs, donc oui. Arriver toujours à travailler ce côté ludique avec le bon dosage des énigmes, ni trop dur ni trop facile, et ça c'est quelque chose que j'essaie de faire et que j'ai plaisir à faire. Donc voilà, je vous dis, d'abord des jeux en ville, hein, maintenant j'en ai une dizaine à peu près, hein, de jeux que je peux organiser dans Paris, hein, depuis le début, hein, il n'y en a pas, pour l'instant, il n'y en a aucun qui s'est arrêté, et il y a eu aussi des jeux en ligne. Les jeux en ligne, il y en a eu un certain nombre, hein, les plus connus jeux en ligne, c'est lesquels, Thomas, tu te souviens, hein?
Ah bah moi c'est Un Noël à Paris, c'est ça?
Un Noël à Paris, bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est les calendriers, hein, les calendriers de l'Avent, ça
a marqué, ça.
Ça a pas mal marché, bah oui, parce que beaucoup de gens sont disponibles en décembre, il fait froid, donc on résout des énigmes. Et effectivement, j'ai fait 3 calendriers de l'Avent et ça a attiré pas mal de joueurs, avec à chaque fois des concepts différents. Donc le premier, Un Noël à Paris, c'était 24 énigmes où vraiment je m'occupais de tout, de A à Z. Et pour les suivants, j'ai commencé à faire appel à d'autres personnes. Il y a eu d'abord les aventures de l'Avent. Ça, le principe, c'était de faire appel à d'autres créateurs d'énigmes en ligne pour qu'on conçoive tous ensemble les énigmes. Hein, là, j'ai fait appel du coup à Thomas et Zeppel pour m'aider. Ils nous ont fait une très belle énigme sur ce calendrier. Et pour le troisième calendrier, qui était donc la route des cadeaux.
Des cadeaux, et oui.
Ça, le principe, c'était de se balader un petit peu partout en France et de rencontrer des agences qui font aussi des jeux de piste pour voir des énigmes qui pouvaient nous proposer. Et là, à nouveau, j'ai refait appel à Zeppel, puisque après tout, ils organisent aussi des jeux de piste à Lyon. Donc, on a eu à nouveau une très belle énigme de Zeppel sur ce projet.
Tu penses à un autre jeu? Je pense à le Trésor du Roi, non? C'est comme ça que ça s'appelait?
Il y a eu le Trésor du Roi de France, effectivement, aussi, ouais. Qui était un grand jeu de l'été. Mais en fait, tout ça, c'est des jeux qui ont été lancés au moment du Covid, puisque il fallait s'occuper, et c'est vrai qu'il y a eu ce jeu de l'été, puis les calendriers qu'on suivit. Mais c'est vrai que les calendriers ont beaucoup plus pris que le Trésor du Roi de France, qui était...
C'était payant.
Non, mais c'est ça, en fait. Effectivement, ouais, je pense que le fait que le jeu soit payant, c'était une grosse contrainte pour les joueurs. Voilà, donc pas mal de projets, et le dernier projet en date et non des moindres, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est ce podcast, bien sûr.
Ah, mais c'était évident.
C'était évident.
Moi, je m'attendais à une annonce, c'est tout.
Une annonce d'un nouveau jeu. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais pour l'instant, tout est confidentiel. Ouais, voilà, bah écoute, j'ai fait le tour d'un trésor à Paris. Maintenant, vous savez un petit peu ce qu'il en est. Et je pense qu'on peut passer maintenant à la présentation de Zeppel.
Allez, et ben, en tout cas, merci pour cet échange, c'était hyper intéressant et on s'est bien projeté. The Pull, c'est... Je ne suis pas tout seul, nous sommes deux avec Annabelle. Annabelle, c'est ma chérie, ma femme, mon associé et ma partenaire, hein, parce que quand je joue des énigmes, c'est également avec elle.
J'ai l'impression que c'est que des synonymes, mais non, il y a des petites variations.
Il y a des petites, hein, petites variations de...
personnel et couple pour créer des, pour participer aux jeux et créer des jeux.
Et du coup, on est tous les deux informaticiens et on avait très envie de faire un projet qui nous tient à cœur, sur lequel on soit autonome et on puisse y mettre toute notre passion. Mais on savait pas ce que c'était. Nous, on est parti sur « on veut faire quelque chose, mais on sait pas quoi ». Et donc toi, l'escape game est arrivé en France en 2014. Nous, il est arrivé en 2016 en France, à Lyon. L'escape game, c'est marrant le petit décalage temporel. Voilà, nous, on a commencé notre histoire. Finalement, a commencé par le Raid in Lyon, puisqu'on a joué au Raid in Lyon pour la première fois en 2016, qu'on a gagné. Et c'était incroyable. C'était une journée de d'énigmes à fond, de stratégie. On a pris un plaisir fou cette journée-là. On est arrivé complètement crevé le soir. Et on a gagné, du coup, un escape game. Incroyable. Ah. Mais c'est quoi un escape game? Donc, on va faire un escape game. C'est hyper sympa, quoi. Passe un super bon moment. Après coup, je sais pas si c'était une super salle ou non. En tout cas, moi, j'ai un super souvenir. C'est le premier. On découvre plein de choses. Il y a des mécanismes qu'on pouvait utiliser en plus à l'époque qui n'existent plus maintenant, donc il y a un petit côté nostalgique quand j'y repense. Voilà, on commence à se dire que ce serait super cool de travailler là-dedans, peut-être pas. On continue à faire des Raid in Lyon et en 2018, je crois que c'est là où c'est passé, on a commencé à entrer en contact avec les organisateurs du Raid in Lyon, qui est une association. Et on se dit, en fait, le Raid in Lyon, c'est un événement. C'est-à-dire qu'en fait, il crée des énigmes pendant plusieurs mois. Et après, la journée est passée, il jette pas tout, mais ça va dans le placard des archives, quoi. Et on se dit, nous, on pourrait faire une application pour rejouer les Raid in Lyon quand l'événement est passé, pour avoir les événements précédents, rejouer les énigmes que t'as pas pu faire, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un jeu qui est tellement grand qu'en fait, tu peux pas faire toutes les énigmes en une journée de 8 heures. Donc finalement, on se dit qu'on fait ça, on met du temps à construire le projet et on se lance en 2019 en disant on prend 6 mois de congé sabbatique pour créer ce qu'on appellera The Pull Go. C'est l'idée en fait de refaire des énigmes dans la ville sur une application mobile et en s'inspirant des énigmes du Raid in Lyon, puisque bien sûr il faut qu'on les retravaille pour un public plus petit. Déjà, c'est des Apple Go, on peut le faire à 1, on peut le faire à 2, on le fait pas à 5, on le fait pas dans un moment de compétition, donc on les retravaille un petit peu. Nous, avec une année de retard sur toi, Johan, on crée The Pull en 2019.
C'est proche, hein, c'est quasiment pareil. Hein.
C'est pas loin. Hein. En tout cas, on est assez synchro sur les façons de penser. Puis sur le moment, on a eu les mêmes idées, je pense. Donc voilà, on lance, je crois que c'est septembre, on fait un peu les festivals, on fait Octogone, on est aussi partenaire du Raid in Lyon pour la première fois en 2019, puisque actuellement, avant, le Raid in Lyon c'était sur papier, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait qu'une seule réponse possible par énigme, et à la fin de la journée, tu venais avec ton papier et t'espérais d'avoir mis la bonne réponse sur chaque énigme. Et puis ce The Pull Go devient aussi la plateforme que l'on prête au Raid in Lyon pour avoir des indices et proposer plusieurs réponses par jour. Et puis après, on a passé beaucoup de moments à se chercher, à trouver qu'est-ce qu'on voulait faire. The Pull Go n'a pas un volume suffisant qui nous permet en fait tout simplement de ne faire que ça. 2020, Covid, on fait les jeux en ligne. Encore une fois, un écho très proche de ce que tu as vécu toi, Yann. Nous, on lance The Pull University. Donc depuis, on a fait 4 éditions. Combien? Ouais.
Waouh. Wow, 4, ouais.
Ouais. 20, 21, 22, 23, 24, ouais. En fait, on se lance, donc en fait, la première, elle doit être en 2021. Et après, on fait une heure 6, c'est trop cool, on s'éclate comme des fous là-dessus. L'année d'après, on commence à faire des team building, qui, encore une fois, marche bien, mais pas suffisant pour ne faire que ça. L'année d'après, on commence à faire des jeux sur mesure, c'est-à-dire, en fait, on travaille avec la ville, on travaille avec les médiathèques, avec des associations, pour faire des jeux à titre pédagogique ou pour mettre en avant des quartiers. Encore une fois, c'est hyper amusant et on s'éclate à faire ça. Et ben l'année dernière, gros bouleversement, puisque on a l'opportunité d'avoir un local à Oulin et de créer notre propre escape game. C'était un peu le début de l'histoire, hein. C'était en 2016 quand on a joué à un escape game, qu'on s'est dit qu'on allait faire The Pearl. Et finalement, ben voilà, 7 ans plus tard, on récupère un local et on se lance dans l'aventure. Ce n'est pas encore ouvert parce qu'on est encore en travaux, mais sans donner de date précise, c'est en bonne voie. Et voilà, ben, cette année, on a encore plein de nouveaux projets. Encore une fois, comme Johan, c'est secret défense. On ne peut pas tout partager, mais on a hâte de les annoncer. Et puis, un projet incroyable que l'on fait en ce moment. Et c'est
Ah oui, c'est le podcast, hein. Moi c'est bon.
Mais oui.
Ok, super. Bah écoute, franchement, très sympa d'entendre ça. C'est vrai que c'est vraiment partie du Red Lignon au final, hein, cette aventure. Vous avez un peu transformé ce format. Hein. C'est vrai que je trouve que c'est une grosse différence entre un format où les réponses sont les mêmes mais on n'est pas sûr, surtout où on n'a pas d'indices, entre un format et où on a des indices et où on valide des réponses et on est sûr directement que c'est bon. Je pense que ça rend le jeu aussi un peu plus long et plus exigeant, le fait de devoir trouver les bonnes réponses plutôt que d'être capable de passer et d'arriver jusqu'au bout. Je sais pas si toi t'as ressenti à ce moment-là, quand il y a eu ce changement, que ça devenait plus dur ou pas forcément.
Je sais pas si ça devient plus difficile. Je pense que en fait les énigmes changent dans le temps, dans la vie de tous les jours, les escape games changent, donc le Red Lignon aussi a changé, il est en près de nouveaux standards, on va dire. Mais oui, forcément, ça change le jeu. Par exemple, quand t'as qu'une seule réponse possible, eh ben, tu fais une énigme, tu regardes l'énigme, t'as une idée qui te paraît cohérente, bah, t'écris ta réponse et tu passes à autre chose. Mmh. Alors que quand t'as trois réponses possibles, eh ben, au final, tu l'attends, tu te dis non, et là, tu te dis, bah, attends, faut qu'on réfléchisse. Donc finalement, les joueurs, c'est beaucoup plus difficile pour eux de zapper une énigme et d'aller à suivre.
Bah oui, bah c'est ça. Surtout donc, si t'as faux, tu dis bah non, je reste pour trouver la bonne réponse.
Exactement. De pas savoir que t'as faux directement permettait ça, de dire allez, bah c'est sûrement ça, on passe à la suivante. Dès que t'as trouvé une réponse qui te convient, en fait, ça suffit. Il y a d'autres choses qui ont changé, surtout d'un point de vue organisation, parce qu'en fait, il faut se rendre compte que le jeu se finissait à 18h, il fallait que tous les joueurs reviennent à un point précis avant 18h, donc c'est aussi une contrainte pour les joueurs, hein. Donner leur papier, et puis après c'était parti pour 2h, 3h de débrouillage.
Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais.
Pour que chacun ait un score, et puis en plus il y avait des bonus qui étaient calculés. Si t'avais une énigme, en fonction des années, hein, c'est pas toujours le même bonus, mais si t'avais fait une énigme que personne n'a réussi, vu qu'ils savent pas exactement le niveau de difficulté, ça change bah forcément si il y a un échafaudage qui s'est créé devant. S'il y a une manifestation qui passe devant, tout ça c'est histoire vraie, ou alors même si elle n'a pas été testée avec un public vraiment cible, et ben on se rend pas compte de la difficulté. Donc pour pallier à ça, ils faisaient des bonus qui dépendaient du nombre de gens qui ont résolu l'énigme. Donc c'était impossible à faire, t'avais des bonus si tu faisais des familles d'énigmes. Donc oui, c'était très très long pour eux de dépouiller et de mettre vraiment un score à chacun. 18h, les équipes, elles gèrent leur temps comme elles veulent, elles sont pas obligées de revenir au point de départ, on appuie sur stop, le score il est calculé, on a encore des opérations manuelles, mais c'est un repos d'esprit pour l'équipe qui est assez, assez important. Oui.
Ok, très bien. Bon, peut-être qu'on va passer à la partie sur le Red Lignon justement, non?
Ouais, t'es parti, t'as envie de jouer là?
Ah bah oui, moi j'attends ça que depuis le dernier épisode là.
Allez, bah du coup, c'est parti pour parler du Red Lignon et une énigme en particulier. Je vais être général au début. Donc le Red Lignon, j'ai décrit ça comme un jeu de piste épique qui se passe dans Lyon une fois par an. Attention, c'est pas du tout récent puisqu'on a fêté, je crois, la 15e édition cette année. Donc c'est vraiment un truc qui est là depuis longtemps. C'est ancré dans le paysage lyonnais. Et puis de plus en plus, ça devient même national, hein, puisque des gens viennent du nord, de Toulouse, un peu de Paris aussi, je crois. Pour jouer. Et le mode, on va dire, historique, c'est 10h, 18h. Donc, c'est quand même 8 heures de jeu. Pour pas mal d'équipes compètes, c'est 8 heures de jeu non-stop. On a fait un autre mode de jeu en 2020, je crois. Ça doit être la 10e année, donc la 11e édition, quelque chose comme ça. On a fait un mode de jeu plus cool, qu'on a appelé le mode chill, qui était finalement 4 heures de jeu et environ un tiers des énigmes. Et on mettait des énigmes un peu variées en fonction des années. C'est soit plutôt des faciles, soit un panel pour découvrir le jeu. Donc ça peut aller de des faciles au très compliqué. C'est pas parce que vous mettez un mode chill que vous avez pas d'énigmes compliquées, ça dépend des années. Donc bah ça c'était ce deuxième mode de jeu qui s'est rajouté pour un peu ouvrir le public. Et finalement on a rajouté un troisième mode de jeu qui était le mode intense. Et ce mode intense, la particularité c'était de rajouter du contenu, pas pour rajouter du contenu, mais pour en fait décaler les départs du matin. Tu vois, comme on a je crois que c'est 500 équipes, c'est 250 équipes dans le mode normal. En fait, 250 équipes qui partent en même temps, c'est trop compliqué. Donc, en fait, on fait plusieurs modes pour décaler les départs. Et finalement, on est un peu bloqué à 250 équipes. 250 personnes, excuse-moi, je dis des bêtises. 250 personnes. Parce que, bah, il faut qu'on arrive à gérer les départs de tout le monde. Donc, on a créé ce mode intense où on rajoutait des énigmes en plus. Et ils partaient un peu plus tôt. Et justement, bah, on va faire une énigme de l'année 2022 qui se passait du coup dans le 7e de Lyon. Et c'était actuellement, à l'époque, ça s'appelait le mode Warrior, c'est le mode intense de maintenant. Donc, ça veut dire que c'est une énigme très difficile.
Ok. Bon, bah, on va essayer. Hein.
Alors, pour l'histoire quand même, je l'ai retravaillée pour l'occasion pour que ça l'adapte à peu près au format. Ça veut dire qu'elle est mieux découpée, elle est mieux organisée, tu pourras mieux réagir sur des parties de l'énigme. Mais ça veut dire aussi qu'il y a moins de perches, puisque pour pas que tu court-circuites complètement l'énigme, j'ai enlevé les éléments qui faisaient un peu rebond, mais qui te donnaient un peu la suite avant, ainsi de suite. Donc, bah, je sais pas exactement s'il est plus simple ou plus difficile que celle du jour J. En tout cas, elle est un peu différente.
Ok, on est d'accord, c'est pas l'énigme qui a été remise dans The Pelgo, hein, c'est quelque chose qui était juste présent sur le moment.
Exactement.
Quand vous avez fait The Pelgo, il y a quand même un gros filtre qui est fait entre les énigmes du jeu et celles qui sont présentes.
Oui, bah en fait quand on fait The Pelgo, il faut pas qu'elle soit trop difficile, il faut qu'elle soit très liée au lieu, il faut aussi qu'il y ait d'autres énigmes pas très loin. Donc en fait, on en récupère actuellement, je pense qu'un bon objectif c'est un cinquième des énigmes. Tu vois, ça fait quand même un très gros filtre. Donc celle-ci n'est pas dans The Pelgo. Et elle n'y sera pas, puisque elle était très isolée pour le coup. Elle n'est pas très liée au lieu et elle est très difficile. Donc elle cache toutes les, elle coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas.
Okay.
Le nom de cette énigme, c'est l'arc-en-ciel des sentiments. Premier indice.
Ouais, c'est vrai que le nom d'énigme, ça peut aider. Hein. Ok.
Ensuite, je vais te dire où c'est pour un peu te situer, parce qu'il y a quand même un petit lien avec là où c'était.
Tu veux que je regarde sur Google Maps ou en temps réel?
Ce serait bien,
ouais. Ok, vas-y.
Tu peux te mettre sur Google Maps. T'en auras pas besoin de manière forte, mais tu vas voir, il y a quand même pas mal de descriptions de ce qui est autour. Pour ceux qui nous écoutent, on mettra sûrement une photo de la carte ou une photo de ce qu'on voit sur place en description de l'épisode, je pense. Donc, le mode Warrior de l'époque, le thème de tout ce qui était ce mode encore plus difficile, c'était l'enfance. En fait, il y a plusieurs zones de jeu, et on a fait une zone de jeu exprès pour ce mode intense qui était l'enfance, donc là, ça tourne autour de l'enfance. Donc, si tu pars du pont Pasteur à Lyon, tu vas avoir la rive gauche, c'est-à-dire la rive qui se trouve à l'est par rapport au pont Pasteur, tu vas remonter un tout petit peu au nord, et là, tu auras des jeux pour enfants, vraiment juste à côté, juste au nord du pont Pasteur.
D'accord, parce que je vois qu'il y a le parc des berges du Rhône, donc c'est dedans.
Oui.
Et il y a des jeux pour enfants. Ah si, je les vois effectivement. Ok.
D'ailleurs, tu vois, il y a une petite fontaine qui a été fort appréciée par les joueurs, puisque je crois que ce jour-là, il a fait très très chaud.
Ouais, c'est l'été hein, que c'est organisé, il me semble, non?
C'est l'été, oui. Mais pas depuis si longtemps que ça, en fait. Je crois que c'est depuis 4 ans que c'est l'été.
Ok.
Yes. Alors j'ai choisi cette énigme, c'est pas pour rien, parce que il y avait, on va dire, 80% de l'énoncé qui se faisait sur une bande son. Donc je me suis dit que c'était quand même plutôt adapté au format podcast. Donc si ça te va, eh ben je vais te lire l'histoire.
Ok, vas-y.
Il est l'heure de se faire de nouveaux amis sur le terrain de jeu, et votre timidité vous gagne. Et oui, parce que tu te rappelles, tu es un enfant et tu es devant le terrain de jeu. La nostalgie des amis qui sont loin depuis votre déménagement. la colère de ne pas savoir être celui que vous aimeriez être, la joie de se lancer dans de nouvelles rencontres, vos sentiments semblent confus. Donc, on retient en gros que tu as déménagé, que tu veux te faire de nouveaux amis, et puis surtout, on voit un petit peu un écho au titre.
Ah ouais? Ouais. D'accord. Moi, je suis surtout confus. Hein. C'est vrai que c'est ça que j'ai retenu à la fin. Non, mais c'est vrai que les trucs comme ça à l'oral où tu parles sur du lyrisme un peu, je trouve ça toujours dur de bien suivre. Et...
C'était exactement une énigme d'organisation d'information. Donc, c'est pour ça que j'essaie un peu de souligner les trucs importants. L'énigme s'appelle « L'arc-en-ciel des sentiments » et on parle du coup de la nostalgie, de la colère, de la joie. Et ben voilà, on apprend que t'as déménagé et que t'as un peu peur d'aller sur le terrain de jeu pour te faire des nouveaux amis. T'es un petit peu timide, t'as nostalgie de ton ancienne maison, t'as la colère de pas être vraiment aussi sympa, gentil, drôle que t'aimerais. Et puis ben, t'as quand même hâte de te faire des nouveaux amis. Ils ont l'air cool ces enfants qui sont dans toi là.
Est-ce qu'on pourrait pas associer une couleur à chaque à chaque sentiment?
L'arc-en-ciel des sentiments, c'est vrai qu'il y a une fausse piste là-dessus qui est assez forte, c'était les couleurs.
Ouais.
Mais non, c'est une fausse piste.
Ok. Parce qu'il y a aussi... attends, c'est quoi? C'est pas vice-versa, non, le Pixar là, avec les couleurs et les sentiments?
Exactement, c'est très inspiré de vice-versa, tu vas voir. Après, c'est une très bonne remarque. Là, je crois que c'était le thème de l'année, c'était une bibliothèque. Et en fait, il y a un livre pour enfants qui s'appelle L'arc-en-ciel des sentiments, qui donne une couleur à chaque sentiment. Et c'était pour ça, en fait, toutes les énigmes faisaient écho à un livre. C'est pour ça que tu as cette fausse piste qui est assez malvenue sur l'arc-en-ciel. Vous hésitez. Vous vous retournez, tournant ainsi le dos aux autres enfants qui s'amusent. C'est alors que vous le voyez. Il est grand, sûr de lui, imperturbable. Il vous rappelle votre ancien chez vous. Il est l'air de faire votre numéro et de se faire des nouveaux copains. Grande inspiration, c'est décidé. Votre numéro sera celui de votre souvenir. Quel numéro déjà? Alors.
Ah, il faut trouver le numéro, c'est ça là.
La question c'est, quelle sera la réponse finale à cette énigme?
Hein?
Pas la réponse, mais qu'est-ce qu'on va chercher finalement?
Qu'est-ce qu'on va chercher? Mais c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on cherche, mais... Bah si. Enfin, non, je comprends
pas. Tu sais pas encore la réponse parce qu'il y a encore beaucoup de contenu, mais tu peux déjà choper des informations. Donc en gros, tu t'es retourné, t'as vu quelque chose de grand, imperturbable, qui te rappelle ton ancien chez toi.
Bah c'est pas un bâtiment, non?
Le souvenir. Tu veux, on va encore le faire après pour savoir exactement ce que c'est ce souvenir. On aura d'autres informations.
Ok.
Mais c'est l'heure de faire ton numéro pour te faire ton nouveau copain et faire que tu prennes un peu un jeu d'acteur. Et la question. Quel est ce numéro? Le numéro de votre souvenir.
Ah, mais pardon, excuse-moi. En fait, un numéro, c'est pas un numéro de téléphone, enfin, c'est pas un nombre, c'est un numéro de clown.
Voilà, là, toi, tu vas faire en tant qu'enfant ton numéro de clown, ton acteur pour être plus sympa que tu l'es encore d'habitude, plus drôle que tu es d'habitude. Mais le double sens de ce numéro, c'est que la réponse finale de cette énigme sera un numéro.
Donc un nombre.
Un nombre.
Ah oui, il y a un double sens, d'accord.
Okay. Il y a un double sens. Donc on retient, on cherche le nombre, et le nombre de quoi?
Le nombre du numéro.
Le nombre du numéro. Le nombre du souvenir. Celui qui est grand et imperturbable.
Waouh, ok.
C'est bon? Allez, on passe vraiment à la ligne cette fois-ci. La prochaine fois, tu auras des choses à déduire. Je te sens pas chaud là. Pop, pop, pop.
Ouais.
Ça, c'était l'introduction. C'est pour ça que j'ai mâché le travail. Mais attention, je te le ferai pas à chaque fois.
Ok.
Donc, je te rappelle la partie qui va nous intéresser pour la section suivante. Il y en aura trois des sections. Pour cette section-là, donc, on vient de tourner le dos au jeu pour enfants. Et on le voit, il est grand et imperturbable. Ok? Mm-hmm. Donc là, tu vas avoir l'inspiration de... Comment t'as appelé le film déjà?
Vice-versa.
Vice-versa, l'inspiration de vice-versa. Donc là, c'est en toi la colère qui va parler. Grand et imperturbable, tu parles encore du trafic routier. Oh, satanée autoroute qui passe au milieu de la ville. Je le fais bien quand même, non?
Ok, ouais, c'est bien, ouais. Oui, c'est la colère, là. Tu as incarné la colère, en fait. Hein,
Exactement. Et là, du coup, ton toi intérieur essaye de calmer ta colère. Mais non, colère. Celui que je vois avance à pas réguliers. Quand tu le regardes, il n'accélère pas. Il ne ralentit pas. Mon souvenir est un peu comme sa petite cousine éloignée. La question, je te fais une pause. Je peux répéter autant de fois que tu veux. C'est à ton avis, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que ce souvenir?
Waouh. Bah écoute, je sais pas, c'est vrai qu'il y avait la colère au début. Est-ce que c'est un souvenir qui est lié à la colère? Du coup, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a la voix rassurante après. Donc,
C'est toi, la voix rassurante.
Ouais, donc le souvenir, c'est un souvenir de colère et qui est lié en fait à l'autoroute qu'on voit peut-être, on voit de la route de l'autre côté du fleuve.
Oui, de l'autre côté du fleuve, on voit l'autoroute passer.
Ouais, d'accord. Mais de dire que le souvenir c'est l'autoroute, ça suffit peut-être pas, non?
Et non, parce que ça commence par « mais non, colère ». Donc ce n'est pas l'autoroute. Une fois que la colère a parlé, toi tu rassures ta colère en disant « mais non, colère ». Mais non, ce n'est pas l'autoroute.
Ah. Je sais pas, il y a un truc, il y a un jeu de mots avec mais non.
Non, c'est juste, c'est pas l'autoroute. En fait, ce que tu vois de l'autre côté, c'est l'autoroute.
Ouais.
Donc, tu regardes dans la bonne direction. Là, on est bon.
Ok.
Celui que je vois avance à pas réguliers. Quand tu le regardes, il n'accélère pas. Il ne ralentit pas. Mon souvenir est un peu comme sa petite cousine éloignée. Donc, la question, c'est pas, qu'est-ce que tu vois devant toi?
D'accord, non, mais je comprends le truc. Bah, c'est pas le bâtiment, là. Il y a un bâtiment quand même qui est très, très chelou, là, avec d'architecture dans tous les sens. Non, c'est pas ce bâtiment, là, qui est de l'autre côté du pont. Hein.
Il faut chercher quelque chose de grand, imperturbable.
Ouais, parce qu'il est grand, hein. Imperturbable, ouais. Le bâtiment, ça se perturbe pas beaucoup, hein, en fait, hein.
Non, c'est vrai. Il n'accélère pas, il ne ralentit pas, il avance à pas réguliers.
Bah, c'est ça le truc, c'est qu'il avance pas tellement, en fait, hein, à pas régulier. Ça marche pas.
C'est quelque chose de plus grand que ça.
Ah, c'est plus grand que le gros bâtiment, hein. Ah ouais, c'est vraiment le plus grand que je vois. Il y a des grues au fond, mais bon, ça avance pas non plus, hein, ça tourne.
Ça vole aussi, mais...
Les grues... Ah oui, les oiseaux. ouais. Ah, c'est peut-être des nuages?
Non.
Non, parce qu'ils sont assez grands, ça aussi, hein.
C'est vrai.
Ça avance aussi un peu, ouais, peut-être pas régulier, puis tu les perturbes pas. Hein, donc, franchement, ça marche très bien.
Les nuages, c'est pas mal.
J'arrive ah non, c'est peut-être c'est le fleuve.
Ben oui.
Ah là là. Après, le fleuve, on peut le perturber hein, pour le coup. Hein. Non? Enfin, tu mets des barrages, tout ça.
Tu sais pas. Oui, mais toi, en tant que petit enfant, je sais
ouais,
pas.
Non. Ah oui, non, j'avoue, ouais, l'enfant, il fait rien. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, donc ouais, il est assez grand effectivement le fleuve pour le coup. Ça en est bon, ça avance à pas régulier. Enfin oui, pas tout au long de l'année, mais ouais sur un instant T, on peut se dire que ça c'est régulier quoi. Ok, hein, ça marche bien ouais.
Quand tu le regardes, il n'accélère pas, il ne ralentit pas, il avance à pas régulier. Donc mon souvenir est un peu comme sa petite cousine éloignée. Donc on apprend un peu plus sur le souvenir.
D'accord, il faut du coup trouver sa cousine éloignée en fait, non?
On pourra peut-être pas la trouver d'un coup, mais on comprend déjà mieux la nature du souvenir.
Mmh. Donc, en gros, le souvenir, c'est une cousine éloignée du fleuve.
Une petite cousine éloignée.
Ok.
Séquence numéro 2. Alors, séquence numéro 2, je vais te faire encore un petit rappel. Du coup, il était l'heure de faire ton numéro. Puisque tu veux te faire des nouveaux copains, donc tu fais un petit peu ton meilleur de toi-même, on va dire. Et là, à l'intérieur de toi, la tristesse parle. Mais personne ne devrait jouer un numéro. Attends, je faisais bien, déconcentre-moi pas. Tu n'es pas un acteur.
Ouais, tu n'es pas un acteur, non, je te confirme. Hein. Mais vas-y, essaye.
Merci. Tu n'es pas un acteur. N'essaye pas d'être celui que tu n'es pas. Garde les pieds sur terre.
Ah. C'est pas comme le fleuve.
Ah non, c'est pas comme le fleuve. Donc, on va répondre à la tristesse pour essayer de la calmer encore un peu. Bien au contraire, tristesse. T'as compris le bien au contraire, du coup, déjà?
Bah non, je crois pas, non.
Puisque c'est pas comme le fleuve.
Oui, voilà, ça, oui.
Parce qu'il garde pas les pieds sur terre, bien au contraire. Bien au contraire, tristesse. Je me rappelle d'une piste. J'avais remarqué que le nom de mon animal totem était la concaténation du nom de mon souvenir et de l'élément qui la compose.
Wow. Attends, vas-y, redis-moi là.
J'avais remarqué que le nom de mon animal totem, nouvel élément qu'on recherche, était la concaténation du nom de mon souvenir et de l'élément qui la compose.
Mais c'est chaud quand même, toutes ces énigmes, non? Enfin, j'ai l'impression qu'elle est, elle est terrible, hein.
Elle est horrible. Elle est horrible.
Tu passes une heure dessus, quoi.
Je pense qu'elle a, elle a dû prendre facilement 20 minutes, une demi-heure, oui.
Ah ouais. D'accord.
Après, comme je disais, il y avait des perches un peu plus mélangées. Donc, tu avais pas mal de subconscient qui te faisait penser à, tu vois. Mais...
Ok.
Du coup, bah, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? C'est la question.
Moi, ce que donc j'ai compris, c'est qu'il faut trouver un nom d'un animal qui est composé de deux choses en concaténation. Donc, d'abord le nom du souvenir et ensuite l'élément qui la compose. Et c'est là où, par exemple, si c'est de l'eau, puisque c'est la cousine éloignée de d'un fleuve, il y a des chances quand même que ça soit de l'eau. Et l'eau, c'est bien parce que c'est un son qui se rajoute très très bien à un mot pour former autre chose, quoi. Donc, donc ouais. Ouais, parce que on est parti sur un fleuve et bon, une petite cousine éloignée, ça peut être un ruisseau. Alors, vu que c'est la petite cousine, c'est peut-être un féminin, donc peut-être une rivière ou quelque chose comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres synonymes qui marchent bien. Et mais par contre, riviero, c'est pas un animal.
Pas top.
Donc, je pense pas que c'est la rivière, mais ça doit être un truc de ce goût-là.
Mais je trouve que t'as des bonnes idées, t'as bien résumé.
Ok, là, à ce stade-là, je peux pas conclure ou si quand même?
Non, il te manque la troisième étape.
Ok.
Et normalement, ça va tout débloquer.
Ah, bah écoute, hein, j'espère.
T'es chaud?
Ah, vas-y.
Donc, troisième étape, je n'ai pas de rappel, puisque là, on est quand même bien plongé dans l'histoire. C'est la joie qui parle. Oh, j'adore! Alors, on attrape cet animal totem? C'est parti, il est où? Encore une fois, un jeu d'acteur incroyable.
Ouais, c'est brillant.
Et pour le coup, c'était une énigme que j'avais enregistrée. J'avais tout donné. Alors.
Mais en fait, c'est vrai que t'enregistres pas. Bon, ceux qui ont joué un peu Supple Go, ils le savent, hein, mais c'est vrai qu'il y a souvent des enregistrements de toi et Annabelle dans les dans les énigmes. Et à chaque fois, vous donnez à fond et c'est sympa. Moi, ça m'amuse.
C'est cool. Donc, on va répondre à la joie. J'attends un autre sentiment, joie. Colère, tristesse et toi ne peuvent pas m'aider. Je recherche la paix, le calme, un sentiment de 8 lettres, commençant par C et finissant par T. De ce qui reste, entre les deux, j'enlèverai la musique et il me restera la maison de mon animal totem.
Ah.
Je la refais?
Alors attends, non, j'ai pris des notes. Donc colère, tristesse, ça lui va pas. Il a besoin de la paix ou d'un chose, enfin un sentiment un petit peu dans ce goût-là qui fait 8 lettres, qui commence par un C et qui finit par un T. Bon, ok. Et à ça, on pourra donc retirer la musique pour obtenir une maison. C'est un petit peu technique et il faut trouver du coup un sentiment de 8 lettres.
Yes.
Qui rejoint la paix. Ouais, non, parce que moi je pense au calme ou la sérénité. Mais sérénité, ça finit par un E, hein, je crois. Enfin, sérénité, on pourrait dire ça finit par un T. Mais non. Hein. Tu joues pas, je pense, son genre de tableau-là. Ouais. Il y a des éléments qui permettent de trouver ce sentiment que j'aurais peut-être pas...
Oui,
vas-y,
complètement.
Si tu veux me... Vas-y, redis-moi du coup.
Je te le refais.
Vas-y.
Et puis peut-être que tu vas rebondir sur des choses peut-être qui peuvent différer de ce que tu as pris comme note. J'attends un autre sentiment, joie. Colère, tristesse et toi ne peuvent pas m'aider dans cette tâche. Je recherche la paix, le calme, un sentiment de 8 lettres, commençant par C et finissant par T. De ce qui reste entre les deux, j'enlèverai la musique. Et il me restera la maison de mon animal totem.
Oui, bah oui, la paix, le calme. Voilà, j'ai ajouté calme que j'avais pas noté. Ah, c'est peut-être vraiment le mot qui va tout changer là. Bah, c'est vrai que calme, ça commence par un C aussi, donc peut-être quelque chose qui ressemble à calme, hein. Calmement, non, ça fait pas. C'est pas un sentiment, calmement.
Non.
4, 5, 6, 7, 8, il y a 10 lettres. Ouais, non, calme est censé aider vraiment à trouver le mot ou...
Non, non, c'était pas ça. Enfin, c'est bien que tu l'aies noté parce que tu sais que c'est pas la réponse puisque je l'avais donné.
Oui, bah c'est ça. Mais bah non, je sais pas s'il y a des trucs que t'as dit en plus là
qui. Tu veux que je te donne une différence par rapport entre ce que toi t'as dit et ce que moi j'ai dit?
Ah oui, vas-y.
Toi tu as dit commençant par un C et finissant par un T.
Oui, c'est ça, et c'est pas ça?
Et moi j'ai dit commençant par C et finissant par T.
Ah, donc c'était ce que j'ai dit là.
Mais
c'est
oui,
bien, c'est sérénité. Ah, le filou. Commençant par C, finissant par T. Ah là là. Ça, c'est vraiment le genre de truc à l'oral là où tu pièges les gens, quoi. Hein, parce qu'à l'écrit,
bah, c'est pour ça que c'est à l'oral.
Ça marche pas,
parce que...
Ah, c'est juste pour ce bout d'énigme.
Bah, c'est juste pour ce bout d'énigme que c'est à l'oral.
Ah, purée.
Et puis, parce que pour trier l'information à l'oral, c'est beaucoup plus difficile, donc ça donnait un côté plus épique que si c'est écrit. Bah voilà, tu peux annoter à côté de chaque paragraphe ce que ça veut dire, alors que si c'est à l'oral, bah t'es obligé de, à chaque fois que tu veux relire, réécouter tout.
Ouais, c'est plus dur, hein.
Et donc il y avait ce bout-là qui était intéressant.
Mmh. Ok.
Donc t'as trouvé le sentiment?
Bah oui, bah du coup j'ai tout là, ça tombe facilement après, hein, puisque on a été qu'on met de côté, il nous resterait ni, la musique c'est le ré, la maison c'est le nid. Donc l'animal totem, c'est... on va dire un oiseau ou quelque chose du genre, quoi. Sûrement un volatile. Mmh. Bah c'est bien. Ok. Ouais, donc là peut-être qu'on peut remonter, hein, en se disant bah l'animal totem qu'est-ce que c'est, sachant qu'il finit par bon peut-être toujours un O, mais bon, après je suis pas sûr. Hein, les autres éléments, on a la terre, le vent, le feu. Je sais pas. Hein. Je sais pas, ouais. Donc, ouais, il faudrait que je regarde tous les noms d'oiseaux et voir lesquels finissent par des noms d'éléments, en fait. Hein, c'est, c'est ça.
T'as pas besoin. T'as déjà de très bonnes idées.
Ok. Non, mais c'est, ouais, c'est ça l'idée, non?
Non, c'est plus simple.
Ah, c'est plus simple. Ah, d'accord.
T'as l'idée, mais c'est juste un tout petit peu plus simple puisque finalement, qu'est-ce qui vit dans un nid?
Ah oui, on peut dire que c'est un oiseau tout court. Ah oui, d'accord, c'est même pas un nom d'oiseau qu'il faut chercher. Ah ouais, d'accord, toi t'es comme ça là. Ouais, l'animal c'est l'oiseau, quoi.
Exactement.
Ouais, non, c'est vrai. Ouais, moi je cherchais des trucs plus précis, hein, mais d'accord.
Il était confirmé par le fait que ça finissait par O, que t'avais déjà trouvé cette information-là.
Oui, effectivement, c'est vrai que oiseau c'est déjà pas mal, mais après, est-ce que oise, on peut dire que c'est un petite cousine je crois que ça marche pas mal. Vas-y, l'Oise, c'est quoi du coup là? C'est tout à fait un fleuve, ça, non? Mais attends, mais c'est un fleuve ou c'est une rivière? Moi, j'aurais dit c'est un département déjà. Hein, donc, ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est fou, je trouve pas là. Il y a vraiment que le département qui ressort. Ah, bah si, là dans la rivière. Ok. C'est bien une rivière. Hein, tout à oui. Fait. Donc, on est pas mal. Et puis, c'est une rivière qui passe par où là? C'est pas, elle passe pas par Lyon du tout, par contre.
Il y avait un élément que j'ai enlevé qui disait que toi il fallait que tu retournes vers la scène des enfants qui jouent et ton souvenir lui aussi a l'habitude d'aller vers la scène. Je l'ai enlevé parce que je pense que tu l'aurais peut-être trouvé dès ce moment-là et ça m'intéressait pas, je voulais que tu ailles jusqu'au bout.
Parce que oui, il y a la scène en mode le fleuve.
Ouais.
Et du coup la scène, effectivement, j'entends scène, moi c'est bon, hein, je fais le rapprochement là.
Tu l'as le jeu de mots.
C'est ça. Ok.
Du coup, bah, l'Oise, c'est un affluent de la Seine.
Ah, ok, c'est un affluent de la Seine. Ouais. Ok. C'est vrai que là, j'aurais cherché des affluents, mais il y en a beaucoup, hein, de la Seine, donc ça.
Je crois qu'il y en a trois. J'ai regardé avant pour voir si ça allait me consacrer mon énigme. Du coup, j'ai enlevé cette partie-là.
Ah ouais. Non, mais oui, il y aura peut-être des gros affluents de la Seine. Il y en a trois, mais après, tous les petits en tout genre, là, ça y va. Hein.
C'est vrai. Et du coup, quelle est ta réponse à cette énigme?
Bah, c'est l'Oise.
Et bah non.
Non, c'est pas ça.
Et non.
Ah bah zut, j'ai cru. Bah parce que on cherchait pas le souvenir grand imperturbable. Attends, mais zut. Bah le fleuve qu'on voit en face de nous, c'est une cousine. Enfin ouais, une cousine éloignée du.
Yes.
Enfin le souvenir, c'est la cousine éloignée, donc bah que ouais, c'est le nom du souvenir. C'est l'Oise. D'accord. Il y a un truc que j'ai pas compris sur le format.
En fait, il te manquait juste. Il fallait revenir encore à tes notes juste avant, mais ça n'a aucun sens, je suis d'accord. Il est l'heure de faire votre numéro et de se faire de nouveaux copains. grande inspiration. C'est décidé, votre numéro sera celui de votre souvenir.
J'avais oublié le numéro. Mais alors quoi, c'est le numéro de département de l'Oise?
Bah voilà, c'est ça.
Et voilà, ok. Ok, ok. Ouais.
J'aimais beaucoup cette énigme. Alors, elle est ultra complexe et des fois assez inutilement, surtout sur ce format-là, que j'ai un peu retravaillé. Mais j'aimais beaucoup ce côté où tu dépiles, tu encaisses l'information et quand tu arrives à la toute fin, eh ben, ça fait un petit effet domino et tu reviens au début. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai gardé cette partie numéro, parce que ça faisait revenir encore au tout début à qu'est-ce que je cherchais, qui était la première information que j'avais donnée.
C'est vrai. C'est vrai. Mais j'avais même pas noté, moi, quand je cherchais un numéro. Tu vois, mes prises de notes, là, c'était vraiment trop sommaire. Mais c'est vrai, t'avais insisté, et franchement, ça se tient. C'est vrai, c'est le genre de truc où quand c'est à l'écrit, bon, tu remontes facilement, mais là, à l'oral, pour le coup, et là, du coup, c'est vraiment tout à l'oral, en fait, toutes les lignes.
C'était mixte, puisque, justement, toute la partie, donc les trois sections où il y avait les sentiments qui parlaient, et où on répondait aux sentiments, étaient à l'oral. Découpé en trois fichiers séparés. Bien sûr, dans cet ordre-là, qui donnait l'ordre de l'histoire, mais l'ordre inverse de la résolution. Mais par contre, le truc qui te disait qu'en fait, bah, c'est le numéro que tu cherches, c'était à l'écrit. Comme ça, on était sûr de perdre les joueurs qui sont tous empressés d'écrire Oise une fois qu'ils ont compris. Et en fait, maintenant, il fallait aussi penser à regarder la partie écrite.
Encore une fois, si c'est écrit, c'est moins piège quand même, parce que tu peux tenter de relire à tout d'un coup pour vérifier. Hein. Après, est-ce que les gens le font beaucoup? C'est pas sûr, j'avoue. Ça, c'est toujours le truc. Hein, il y a plusieurs étapes, t'en as une, t'es content et hop, ça valide quoi.
Les énigmes intenses ou Warrior à l'époque, c'était vraiment l'occasion de faire des énigmes où on se lâchait sur la difficulté et où ça allait permettre de faire une compétition dans les meilleures équipes qui joue. Donc c'est vrai que voilà, on se lâche un peu. Mais je me rappelle que plusieurs grosses équipes l'ont fini en 20 minutes. Hein. Donc c'est...
Non, ça m'étonne pas, hein, parce que c'est pas si long que ça et pas si dur. Hein, donc ça se fait. Et moi franchement, je trouve que c'est cool. Hein. J'aime bien ce type d'énigme avec les différentes étapes. C'est vrai que ça fait pas beaucoup utiliser. Par contre, le décor, enfin ça tu l'avais remarqué. Hein, il y a juste remarqué que qu'il y a le fleuve. Oh, c'est... Oui. Non, mais après... Why not, hein.
Ouais, non, je suis d'accord que le lieu est très peu utilisé, mais il est tellement gros, le fleuve, que les gens cherchaient des choses beaucoup plus petites, et du coup, c'était même un contre-pied, quoi. Et ben, j'espère que ça t'a plu.
Ouais, non, ça m'a plu. Hein. C'est vrai qu'au final, on n'a pas utilisé les jeux pour enfants, donc ça, c'est un peu triste, mais bon... c'était quand même très empreint de nostalgie comme énigme, hein, avec tout ce qui était dit, donc c'était plaisant.
Cool.
Merci Thomas, hein, de nous avoir fait revivre ça. C'était très sympa.
Ah oui, d'ailleurs, juste, je me permets de faire un dernier coup de pub. Le Red Union, c'est en juin, donc en gros, vous l'avez loupé, mais ça revient en juin l'année prochaine, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça se note dans l'agenda, on n'a pas encore le jour exact, ce sera un samedi de juin, a priori, début juin.
Après, c'est ça. Le Red Union, maintenant, c'est trop lancé. Hein. Après 15 ans, c'est inarrêtable. Maintenant, c'est tous les ans.
C'est ça.
Et c'est un bon petit rendez-vous pour pas mal de passionnés d'énigmes partout en France.
Et il y a des énigmes plus simples que celle-ci. Je tiens à préciser.
Ben, c'est ça. Non, mais par contre, est-ce qu'il y a des énigmes qui sont du même niveau? Je pense qu'il y en avait un peu, non?
Enfin... Pour cette année, je dirais qu'il y avait deux énigmes qui étaient vraiment... je veux dire hardcore, et après qu'on a choisi de garder pour avoir le côté compétition, hein, puisqu'il faut qu'à un moment, quand les équipes sont très fortes, ils aient des énigmes sur lesquelles ils puissent se départager. Mais voilà, après ça veut dire que en fonction de comment tu comptes, les 22-28 autres énigmes étaient faisables un temps très correct pour les fortes équipes.
Ok.
Je te propose de passer à la suite, puisque on avait dit qu'à la fin de l'épisode, on partageait avec les éditeurs et auditrices l'énigme de fin, et moi, j'ai hyper hâte de savoir quelle est la solution de l'énigme du mois dernier.
Exactement, on peut donner la solution. Et donc toi, en fait, t'as pas trouvé. Hein, t'as cherché, y a pas eu de déclic.
Ah bah, j'ai cherché. Peut-être j'ai trouvé. Peut-être j'ai pas trouvé, mais je sais pas. Donc je peux te dire déjà ce que j'ai intuité.
Bah écoute, pourquoi pas. Tu peux. Hein, je vais rappeler l'énoncé hein, pour qu'on se souvienne bien. C'était j'ai deux enfants dont l'un est une fille. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit aussi une fille?
Ouais. Eh ben, je pense que c'est une question hyper intéressante. Je sais pourquoi j'ai fait qu'un enfant maintenant.
Ouais, pour éviter d'avoir à se poser ce type de questions.
Exactement. Non, alors du coup, tu avais aussi précisé que c'était pas une chance sur deux.
Oui.
Si t'avais pas précisé cela, déjà, j'aurais dit une chance sur deux. Ensuite, tu as dit l'un des deux est une fille. Et je me suis dit, allez, si c'était deux filles, est-ce que tu l'aurais tourné dans ce sens-là? Donc, je me dirais que il y a peu de chances que ce soit deux filles parce que sinon t'aurais pas dit l'un des deux. Mais voilà, je sens que c'est pas ça.
Attends, mais t'as compris quoi que il y a pas beaucoup de chances et bon, c'est zéro. Allez, on arrondit à zéro.
C'est ça, zéro.
Ah bah dis donc.
J'avais l'impression que c'était un. Tu me fais semblant que c'est un truc de statistique, mais en fait. C'était un jeu de mots.
En fait, c'est une blague. Eh oui. Non, bah alors, effectivement, tu as bien compris que c'était pas ça, la réponse. Non, c'est vraiment des stats, mais c'est des stats simples. Hein. Moi, je suis pas parti sur des trucs trop compliqués. En fait, quand on a deux enfants, en stats vraiment très basiques, ce qu'on fait, c'est un arbre de probabilité. Hein, normalement, on voit ça au lycée. Et c'est tout simple, en fait. Hein. On divise d'abord en deux. Pour le premier enfant, garçon ou fille, donc on a une chance sur deux pour chacune des deux branches. Et ensuite, chaque branche va à nouveau se diviser en deux en fonction du deuxième enfant, si c'est un garçon ou une fille, avec à chaque fois aussi une chance sur deux pour les deux cas. Hein, donc on a un arbre comme ça très simple avec deux niveaux et il faut l'utiliser pour trouver la réponse. Alors ce type d'arbre est facile à comprendre normalement et c'est pour ça que l'astuce au final, c'est juste une astuce de langage et qui est vraiment accessible.
Du coup, là, en fait, t'as quatre possibilités. T'as garçon-garçon, garçon-fille, fille-garçon et fille-fille.
C'est ça, donc, il y en a quatre, ouais.
T'as un quart de chance d'avoir ces possibilités-là.
Il y a un quart de chance que les deux soient des filles, effectivement. Hein, donc, ça pourrait être une réponse à proposer, mais c'est pas la bonne réponse, puisqu'il y a une condition supplémentaire hein, qui vient changer un petit peu ça. C'est l'un des deux est une fille.
Oui, donc...
Et ça, c'est un peu subtil à comprendre, c'est-à-dire que l'un des deux est une fille, c'est pas je prends un des deux enfants physiquement, donc j'en ai un, je le montre, et je me pose la question du sexe de l'autre, parce qu'à ce moment-là, effectivement, ça serait bien une chance sur deux, parce que un autre enfant, si on sait pas lequel c'est voilà, soit un garçon ou une fille avec une chance sur deux. Là, c'est un petit peu plus subtil, c'est l'un des deux, mais on sait pas, quand on dit l'un des deux, si on parle du premier ou du second. Et en fait, ça peut être les deux. Et c'est ça qui rend le problème un petit peu... plus subtil.
Donc sur mon arbre, j'ai quatre possibilités. J'en ai une où il n'y a pas de fille. Donc il me reste trois possibilités. Et finalement sur ces trois possibilités, j'en ai qu'une où il y a deux filles et deux où il y a une fille et un garçon. Donc la probabilité que mon deuxième enfant soit une fille, c'est un tiers.
Exactement. Voilà, c'est ça c'est ça la réponse. On est vraiment avec ce truc de on exclut le garçon. On regarde combien il y a de possibilités, puis la probabilité, ça c'est la façon classique de calculer, c'est nombre de cas qui marchent sur nombre de cas total. Donc ici c'est 1 sur 3.
Ah ouais, c'était hyper technique. Moi je m'attendais à un jeu de mots.
Ah ouais, tu trouves ? Ah, c'est un jeu de mots. Non, mais ça c'est une énigme en fait que je connais depuis hyper longtemps et que quand je faisais mes études, voilà, à cette époque-là, ça circulait, je trouvais ça intéressant. Et on est très loin de ce qu'on voit sur les énigmes habituelles, hein, puisque il y a quand même un petit prérequis mathématique. Mais moi, je trouve intéressant cette histoire de juste sur la formulation. On a l'impression que c'est évident, mais en fait non. Il y a cette subtilité qui se cache dans la phrase, et ça piège même les meilleurs, quoi.
Oui, et puis en fait, c'est rare d'avoir des énigmes mathématiques pures qui tiennent en une phrase, quoi.
Aussi, ouais. Ça, c'est, j'avoue, moi, c'est des trucs que j'aime bien. C'est des énigmes où c'est vraiment très court. Et l'avantage de ça, c'est que on part un peu moins dans tous les sens, hein, parce qu'il y a moins de fausses pistes qui peuvent sortir de partout. On reste concentré vraiment juste sur sur, juste sur, sur ce qu'on a, et au bout d'un moment, ça peut éventuellement venir.
Ben, écoute, hyper intéressant. C'est vrai que je ne fais pratiquement aucune énigme, enfin, je propose aucune énigme de mathématiques pures parce que ben, les gens parfois adorent les énigmes, mais ils sont allergiques aux mathématiques.
C'est quand même, bien sûr, des fois, le cas. Oui, les maths, ça pose souvent problème. Et moi, c'est pas non plus une énigme que je proposerais dans le cadre d'un de mes jeux. Hein. Clairement, ah. Ça c'est juste une énigme qui était voilà, que je connais, que je trouve marrante et que je partage. Mais je trouve aussi que c'est trop mathématique pour un jeu grand public aujourd'hui.
Et ben, en tout cas, tu m'as bien eu. Un bon contre-pied.
Yes. Alors juste pour info, il y a quelques joueurs qui m'ont donné la bonne réponse en commentaire, mais c'est quand même très peu qui l'ont fait. Et peut-être certains qui ont cherché sur Internet, hein, parce que ça se trouve vraiment facilement. Mais ça, on ne sait pas. Voilà, ça c'était la solution. On peut peut-être passer maintenant à la nouvelle énigme de fin. Et cette fois-ci, c'est toi, Thomas, qui nous a préparé quelque chose.
Et oui.
Là, pour le coup, c'est une vraie création, non?
C'est une création. Et elle n'a pas été testée. Donc, autant dire que on arrive sur de l'inconnu. Et bien sûr, bah, le but, c'est que vous y réfléchissiez de votre côté également. Tout le temps où... entre deux épisodes, c'est quoi? C'est au moins un mois, on va dire, entre deux épisodes.
Peut-être un mois, effectivement. Donc là, moi aussi, même si je la trouve la réponse, je le dis pas.
Tu peux dire, j'ai une idée. Je pense que la voir. Histoire de mettre la pression aux éditeurs et auditrices.
On dira oui, bah c'est facile.
Oui. Instantanément, tu l'as eu. Donc, prêt?
Vas-y.
L'inverse de l'opposé de l'inverse. C'est facile. L'inverse de l'opposé de l'inverse.
Mm-hmm.
De rouge. C'est win, le mot gagner en anglais.
Mmh.
Personnellement, je joue l'inverse de rouge et l'opposé de l'inverse de rouge. Alors, est-ce que tu as deviné comment je joue?
Bah écoute, je l'ai pas. Je te dis direct. Non mais ça c'est un truc qu'il faut se poser et puis ouais, il faut l'écrire hein, parce que si tu l'as pas sur papier, je pense c'est dur de se le repasser en tête puisque c'est un peu long quoi.
Alors, sur papier, elle est beaucoup plus facile. Néanmoins, à l'oral, elle est beaucoup plus drôle.
Ah ouais?
Bah, je trouve qu'il y a un côté enivrant de l'inverse, de l'opposé, de l'inverse, de rouge.
Ah oui, oui, de l'entendre. Ouais, oui. Je suis d'accord. Après, pour trouver la solution, faut se concentrer. Yes. Hein.
Il vaut mieux se poser et l'écrire, je suis d'accord. Donc, l'inverse de l'opposé, de l'inverse, de rouge, c'est win. Gagner, en anglais. Personnellement, je joue l'inverse de rouge et l'opposé de l'inverse de rouge. Alors, comment est-ce que je joue?
Ok. Bah écoute, hein, je vais y réfléchir entre-temps parce que là, pour le coup, ça vient pas tout de suite, hein, la solution. Je pense que c'est normal. Mais tant mieux, on va dire. J'ai tout un mois pour y réfléchir, comme les auditeurs. Donc, voilà, réfléchissez-y et on verra si c'était bon.
Je pense que c'est l'heure de conclure. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire Instagram ou Facebook ce que vous en avez pensé. Et on se dit à bientôt dans le prochain épisode. Ciao, ciao!
Ciao!